RFI, 7h30 à Kidal et Dakar, 8h30 à Paris.
RFI Matin.
À la une de votre journal, Vincent Dublange, le limogeage de Choguel Maïga au Mali.
Oui, annoncé hier soir, André Anna, à la télévision nationale, 4 jours après ses propos acerbes contre les militaires au pouvoir. Décryptage d'une décision qui n'est pas vraiment une surprise. Analyse aussi dans ce journal du gel au Burkina Faso des avoirs d'une centaine de personnes, dont l'ancien putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les sports, le journal des sports dans 10 minutes, mais dans cette édition, une question: qui pour remplacer Pape Thiaw, le coach intérimaire du Sénégal? Et si c'était lui-même, c'est l'une des options, nous dira Babacar Fall. On terminera en mélodie et en Seine-Saint-Denis près de Paris pour le festival Africolor, aux accents zanzibarites, l'île en face de la Tanzanie où est né le tarab, style musical bien particulier qui nous est conté dans 10 minutes par Olivier Roger. Il n'est donc, depuis hier soir, plus Premier ministre de transition au Mali. Choguel Maïga a été limogé finalement par la junte. Le décret du président Assimi Goïta a été lu hier soir à l'ORTM, la télévision d'État au Mali. Pas plus d'informations pour le moment qui va le remplacer, qui va remplacer ses ministres aussi, puisque l'ensemble du gouvernement est remercié. Bonjour David Baché.
Bonjour Vincent.
Choguel Maïga avait tenu, on en a beaucoup parlé sur RFI, des propos sévères contre la manière dont la transition est menée au Mali. Fin de parcours donc pour lui en tant que soutien des putschistes.
Oui, Choguel Maïga avait été nommé en juin 2021 après le second coup d'état militaire. La précédente équipe avait tenté d'écarter certains colonels putschistes du gouvernement, ce qui avait provoqué cette rectification de la transition, selon l'euphémisme officiel. Choguel Maïga, qui dénonçait jusqu'alors un régime militaire déguisé, choisit de prendre sa part du pouvoir et accède à la primature. Mais en dépit de certaines déclarations fracassantes, comme le fameux abandon en plein vol qui visait la France à la tribune des Nations Unies à peine 3 mois après sa nomination, Choguel Maïga n'exerce pas réellement le pouvoir et ses relations avec les colonels récemment promus généraux se dégradent progressivement.
Et depuis un an, David, la tension était montée d'un cran.
Oui, en mai, l'un de ses proches collaborateurs avait même dénoncé cette éviction du pouvoir, ce qui lui avait valu d'être emprisonné et condamné pour atteinte au crédit de l'État. Choguel Maïga, limogé, devrait poursuivre sa stratégie et tenter de se repositionner en opposant dans la perspective d'éventuelles futures élections. Mais il lui sera difficile de convaincre après 3 années et demie au service du régime. Choguel Maïga peut aussi désormais redouter la justice de la transition. Ces derniers jours, les organisations projointes l'ont accusé de haute trahison, de déstabilisation. Choguel Maïga pourrait à son tour être visé par des poursuites judiciaires, voire même mis en détention de manière préventive, ce qui l'empêcherait de s'exprimer et de mener ses activités politiques. Comme avant lui, de nombreuses figures de la politique malienne, toujours détenues et pour lesquelles Choguel Maïga ne s'est jamais battu.
Merci David Baché en direct du studio 32 à RFI à Paris. Au Mali, toujours un mot en bref de ces 3 responsables de l'entreprise australienne Resolute Mining. On en a parlé aussi sur RFI, ils avaient été arrêtés début novembre. Ils ont été libérés hier. Ils ont passé un accord avec la junte, 160 millions de dollars qu'ils doivent payer, un premier versement de 80 millions de dollars dans un premier temps, puis un second, disent-ils en tout cas, dans les mois à venir. On l'apprenait hier. Rokia Traoré, qui avait été arrêtée en juin dernier en Italie, sera prochainement extradée vers la Belgique. Elle y a été condamnée par défaut, en son absence donc, et sans défense, à 2 ans de prison par la Cour correctionnelle de Bruxelles. C'était en octobre 2023. La chanteuse malienne pourrait de nouveau être jugée, en Belgique donc, dans cette affaire qui l'oppose à son ancien conjoint, le dramaturge belge Yann Gossens. Au cœur du litige, leur petite fille de 9 ans qui réside à Bamako, qui n'aurait pas eu de visite de son père depuis maintenant près de 5 ans. Parole contre parole, mère et père distillent 2 discours qui s'opposent. Les détails de Paul Lorgerie.
Tout commence en 2019 par la réception d'une citation à comparaître devant le tribunal en droit de la famille de Bruxelles à laquelle Rokia Traoré ne se rendra pas. Une absence qui lui vaudra plusieurs arrestations, bien qu'elle continue de clamer son innocence, comme le rapporte son avocate italienne, maître Maddalena Claudia Del Rey.
La petite fille Huma a toujours habité en Mali avec l'accord de le père. Elle n'a pas commis aucun enlèvement de la petite fille.
Dans une lettre écrite depuis sa cellule italienne, Rokia Traoré affirme que, je cite, « Pendant 5 ans, son père n'est jamais venu la voir. Il ne s'est jamais inquiété de la manière dont elle vit et dont elle va à l'école. Si ce dernier n'a jamais obtenu la garde exclusive de l'enfant, son avocat, maître Sven Marie, affirme qu'il n'a plus vu sa fille depuis 2019 et qu'il a souhaité trouver un terrain d'entente avec la mère. »
La seule chose qui lui a été attribuée, c'est que pendant les vacances scolaires et que pendant certaines périodes, comme chaque père voudrait que ça se fasse, ben c'est qu'il puisse voir son enfant. Il a plus vu son enfant maintenant, cet enfant a maintenant 9 ans, cet enfant est parti quand il avait 5 ans et demi.
Une fois extradé vers la Belgique, Rokia Traoré aura cette fois-ci l'occasion de faire entendre sa voix devant les juges. Selon Maître Madalena Claudia Del Rey, le nouveau conseil de la chanteuse, Maître Vincent Lurquin, fera opposition au jugement. Une façon pour elle de recommencer le procès à zéro.
Au Burkina Faso, le gouvernement gèle les biens et les ressources de plus d'une centaine de personnes, personnes physiques ou personne morale, et ce pour 6 mois renouvelables. Parmi elles, l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres, des journalistes, des militaires, mais aussi des bergers, des cultivateurs, des commerçants, tous accusés, Esdras Ndikoumana, de participation à des actes terroristes.
En plus du gel de leurs biens, les personnes concernées ont été notifiées d'une interdiction de voyager durant cette période de 6 mois. Qu'il s'agisse de l'ex-président de la transition, des anciens ministres des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Alpha Barry, de journalistes ou encore de plusieurs militaires et Samar Adié des effectifs de l'armée, tous ont été accusés d'avoir, je cite, « participé à des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme ». Sur cette liste qui pointe de nombreuses personnalités de premier plan, figurent également de parfaits inconnus tels que des bergers, des maîtres et élèves coraniques, des éleveurs, cultivateurs, commerçants burkinabés ou maliens, accusés d'associations de malfaiteurs terroristes, d'entraînement au combat, de complicité des actes terroristes ou de détention illégale d'armes à feu. Par ailleurs, deux groupes terroristes sont visés par ces sanctions, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans ainsi que l'État islamique au Grand Sahel. Selon l'arrêté signé par le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakabono, ce gel des biens concerne tout ce qui pourrait être utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services servant le terrorisme. La mesure entrée en vigueur mardi pourrait être renouvelée encore pour 6 mois, une fois arrivée à terme.
Au Sénégal, combien de sièges pour le PASTEF? C'est la question qui reste. On attend les résultats définitifs des législatives et donc les projections en sièges à l'Assemblée nationale pour demain maximum. Le parti du Premier ministre, en tout cas, aura une large majorité et pourra donc mettre en œuvre ses réformes promises lors de la présidentielle en mars dernier. Quels sont les chantiers prioritaires? Pour l'économiste Magaï Gaye, l'urgence, c'est d'abord la loi de finances.
La nouvelle majorité arrivée au pouvoir depuis 7 mois et qui, pour des raisons d'ailleurs politiques, ces nouvelles autorités étaient obligées de travailler sur la base de l'ancien budget. Cette loi de finances 2025, une fois adoptée, je l'espère avant la fin du mois de janvier, permettra enfin aux nouvelles autorités de commencer à traduire en actes concrets le programme économique Vision 2050 proposé aux Sénégalais. Enfin, on aura une feuille de route qui permettra de faire face au nombre urgences liées à l'emploi, à la vie chère, mais aussi à la mise en œuvre de programmes économiques efficaces. Ce sera aussi l'occasion de donner un signal fort aux partenaires financiers internationaux.
Propos recueillis par Léa Lisa Vesterhoff à Dakar. Qui sera à Dakar justement le prochain sélectionneur de l'équipe de foot au Sénégal? On saura peut-être ça d'ici la fin de l'année. Parmi les noms qui circulent, ceux d'Habib Bey, d'Omar Daff ou encore de Pape Thiaw. Pape Thiaw, l'actuel intérimaire du poste qui vient tout juste de qualifier les Lions à la prochaine CAN. Babacar Fall.
Merci.
Le au revoir de Pape Thiaw en zone mixte après Sénégal-Burundi.
J'étais entraîneur intérimaire, là c'est fini ce soir.
Mais ce n'est peut-être pas encore la fin de l'aventure avec les Lions pour le technicien de 43 ans, celui qui assurait l'intérim sur le banc des champions d'Afrique 2022 après le départ forcé d'Aliou Cissé, a pris les rênes de l'équipe depuis la 3e journée des qualifications à la CAN 2025. Et il a fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires. Thiaw fait partie de la shortlist des dirigeants sénégalais pour le poste de sélectionneur titulaire de l'équipe nationale A. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de foot.
Nous allons choisir un sélectionneur de nationalité sénégalaise. Et bien évidemment, Pape Thiaw fait partie des candidats pour le poste. Il a remporté le dernier CHAN avec l'équipe nationale locale. Ensuite, il a rejoint le staff de l'équipe A comme adjoint d'Aliou Cissé. Et puis, il a bien géré l'intérim avec de bons résultats.
Et la Fédération donne rendez-vous fin décembre au plus tard pour annoncer le nom du nouveau sélectionneur avant que les Lions ne retrouvent les pelouses en mars pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et le journal des sports complet avec Antoine Grenier. Dans 3 minutes, à la une notamment, l'élimination, la non-qualification à la CAN prochaine du Sili National. La Guinée éliminée, battue par la Tanzanie. Mardi, on en parle depuis Conakry avec Tchernoya Diallo. C'est un genre musical peu connu en France. Et pourtant, le Taarab de Zanzibar, fusion d'influence, est un phénomène culturel sur la côte est de l'Afrique. Aujourd'hui et demain, le festival Africolor en France Le met à l'honneur, ce Tarab, avec les deux concerts de Siti Amina et de son orchestre Siti and the Band. Olivier Roger.
À la fin du 19e siècle, dans ce que l'on surnommait alors l'archipel des sultans batailleurs, naît une musique de cour, subtil mélange de musique savante égyptienne, d'influence indienne et africaine, qui donnera le tarab. D'abord conçu pour distraire, le tarab devient au fil du temps une musique de revendication, notamment sous l'influence de femmes puissantes comme les chanteuses Biki Doudé et Siti Binti Saad. Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor.
Dans toute l'histoire du tarab, il y a eu des rapports de tension avec les gouvernants qui parfois ont interdit, etc. Donc on voit bien que c'est une musique qui a une fonction sociale très forte.
Siti Amina est l'héritière de cette tradition d'une chanson militante. En parlant de sa vie et de ses expériences, elle lève le voile sur les tabous de la société. Siti Amina.
J'ai subi beaucoup de violences durant mon mariage. J'ai dû m'enfuir. J'ai pu alors réaliser mes rêves et mes projets. Mais ça, ce n'est pas simplement mon histoire. C'est aussi l'histoire de beaucoup d'Africaines. Comment se battre contre les violences domestiques et contre les inégalités?
Audacieux par nature, le tarab n'hésite jamais à s'ouvrir aux influences, jazz, pop, voire hip-hop enrichissent son répertoire.
Le son sur RFI de Siti and the Band, groupe de Zanzibar en concert ce soir au Lila près de Paris, demain vendredi à Bondy, toujours en région parisienne. Merci Olivier Roger du service culture de Radio France Internationale. RFI Matin, la suite, Andréane Mellard.
Et c'était Vincent Dublange.